L'arrivée sur le marché d'un nouveau pays producteur de diamants de manière totalement inespérée, c'était le Zimbabwe en 2006 déjà, avec des stocks qui représentent, il faut bien l'imaginer, un quart des réserves mondiales de diamants. Donc du jour au lendemain ou presque, disons que les années de crise étaient 2006-2008, on s'est rendu compte que le processus de Kimberley déjà balbutiant risquait d'être emporté par une avalanche de nouveaux diamants à contrôler. Et donc il y a eu une large réflexion sur la validité des critères de sélection, de probité des diamants au niveau mondial et la manière dont le marché diamantaire pouvait résister si demain, par exemple, le Zimbabwe disait, moi, l'exportation de diamants immorales ne me pose pas de problème. Ça n'a heureusement pas été le cas et le processus de Kimberley a réussi à survivre en polissant, en moralisant la majeure partie du diamant zimbabwéen. Mais ça a beaucoup affaibli le processus qui, 10 ans après sa création, est donc devenu un processus qui doit aujourd'hui se battre pour prouver sa crédibilité. Et par ailleurs, ça a tout de même permis au Zimbabwe de rentrer avec un diamant qui n'est pas totalement propre dans l'économie globale du diamant planétaire.
Mais alors, les diamants du sang continuent à circuler presque impunément sur le marché international.
Presque impunément, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendus à leur véritable valeur, mais effectivement, vous avez d'une part des diamants du sang d'origine zimbabwéenne qui continuent à sortir du Zimbabwe via l'Angola, via le Mozambique et qui se retrouvent sur les marchés de Dubaï et de l'Inde et puis immanquablement à Anvers, et pour lequel les Zimbabwéens sont perdants parce qu'on ne leur donne pas tout à fait la valeur auxquelles ils auraient droit pour leurs diamants. Et le commerce mondial du diamant est lui aussi perdant parce que d'une part, le niveau du marché de diamants a baissé avec un tel affût de diamants et puis la fiabilité du diamant s'est modifiée. Aujourd'hui, quand vous achetez un diamant, vous n'êtes plus sûr d'avoir un diamant propre, un diamant moral, un diamant qui n'est pas entaché de sang.
Mais qu'en est-il des moyens concrets pour essayer d'enrayer la circulation des diamants du sang?
Un des premiers moyens, ça a été d'assurer la transparence des sociétés qui, au Zimbabwe, exploitaient les mines. Donc, limiter les appétits du président du Zimbabwe, les ambitions personnelles qu'il avait sur son envie de faire fortune dans le diamant, limiter l'impact des prises de position un peu sauvages de quelques conglomérats miniers, notamment chinois et sud-africains, sur les Zimbabwe, et puis forcer les contrôleurs du processus de Kimberley, il y en a dans tous les pays qui sont producteurs et traiteurs de diamants, forcer donc ces contrôleurs à effectivement rejeter le diamant du Zimbabwe. Avec une chance, c'est que le diamant du Zimbabwe, si vous en avez un dans votre main, vous ne pouvez pas le rater. C'est un diamant qui est assez vert-brun, de petite taille, qu'on reconnaît relativement aisément.
Mais qu'est-ce qui empêche la pleine réussite du processus de Kimberley? Un manque de volonté?
D'abord, la corruption du régime zimbabwéen, un manque de garantie donnée aux sociétés internationales sur la stabilité du régime zimbabwéen. Donc, tant qu'on n'a pas, un, le règlement de la corruption, de la garantie de l'ordre de droit, on aura un problème au Zimbabwe. Maintenant, tout le reste du travail qui est d'aller sur place, de vérifier qui fait quoi, quelles sont les brutalités, qui sont les seigneurs de guerre, ce travail-là a en grande partie été réalisé. Le Zimbabwe, et c'est là qu'est la chose triste, il suffirait d'avoir un nouveau régime, un nouveau président pour que les choses sans doute s'arrangent assez aisément.